Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, en Saint-Dominique, bien chers fidèles, au chapitre premier de la Somme contre les gentils, qui est une œuvre de saint Thomas, saint Thomas se demande quel est l'office du sage. Quod sit officium sapientis? Et sans s'en douter, en fait, c'est son propre portrait qu'il trace. Pour répondre à cette question, il fait appel, comme à son habitude, à un texte de l'Écriture. Et le passage qu'il choisit, c'est un verset tiré du livre des Proverbes. « Ma bouche méditera la vérité et mes lèvres détesteront l'impie. » Eh bien, tel est l'office du sage, méditer la vérité et détester l'erreur. Le sage médite la vérité, qu'est-ce que cela veut dire? Aristote, qui est cité à cet endroit par saint Thomas, déclare « c'est le propre du sage de remettre de l'ordre et de juger ». Vous connaissez cette parole, elle est très connue, « sapientis est ordinare et judicare ». Or, mettre de l'ordre, c'est mettre chaque chose à sa place, en fonction de la fin qui est la sienne. Et juger, c'est connaître les causes qui gouvernent les choses. Et c'est ainsi que, dans un même genre d'art ou d'activité, il existe des arts plus élevés qui commandent aux autres, moins élevés. Et ces arts supérieurs assignent leur fin aux arts inférieurs et exercent à leur égard un rôle de régulateur. Pour prendre un exemple, l'art de la médecine préside à l'art de la pharmacie, parce que la santé, qui est l'objet de la médecine, est le but de tous les remèdes dont la composition relève du pharmacien. Ou encore, c'est un exemple pris aussi par saint Thomas, l'architecte, qui élabore les plans de la maison, dirige les corps de métier qui contribuent à la construction. Il juge ce que chacun doit faire, parce qu'il a une connaissance plus élevée, plus générale, du but à atteindre et des moyens d'y parvenir. Alors on doit dire que le médecin par rapport au pharmacien, ou l'architecte par rapport au maçon, ou à tous les corps d'État qui travaillent à la construction, mérite le nom de sage. Mais ce qui est vrai des divers genres de l'activité humaine, des sciences, des arts particuliers, est encore plus vrai quand il s'agit de la science qui cherche à connaître ce qui est la cause suprême et la fin ultime de tout l'univers, Dieu lui-même. La sagesse dont il s'agit ici n'est plus une sagesse quelconque, une sagesse humaine, appliquée à un domaine particulier. C'est la sagesse pure et simple, celle qui ordonne et qui juge absolument de tout, parce qu'elle considère ce qu'il y a de plus haut, la vérité première, source, principe de toute vérité. Et celui qui applique son intelligence à cette considération mérite par excellence le nom de sage. Or, précisément, c'est ce qu'a fait saint Thomas. La connaissance de Dieu, l'enseignement des vérités de la foi, ont été l'occupation de toute sa vie, l'objet de toutes ses œuvres, spécialement de son œuvre maîtresse, la Somme théologique. Tout dans cette œuvre traite de Dieu, Dieu en lui-même, ou bien ce qui se rapporte à Dieu comme principe ou comme fin. Et pour pouvoir réaliser ce programme grandiose, saint Thomas s'est non seulement parfaitement nourri des vérités de la Révélation et des enseignements de l'Église, mais il a également pieusement recueilli en lui toute la sagesse des penseurs et des docteurs des siècles qui l'ont précédé, aussi bien dans le domaine de la philosophie que dans le domaine de la théologie. Alors saint Thomas mérite bien le titre de sage par excellence. Et d'ailleurs, c'est ce que chante à maintes reprises la liturgie d'aujourd'hui, vous l'avez entendu, dès l'introïte qui applique à saint Thomas ces mots « Le Seigneur l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence ». Et puis surtout dans l'épître que nous venons d'entendre, il est prêté à saint Thomas ces paroles du livre de la sagesse. J'ai désiré l'intelligence et elle m'a été donnée. J'ai invoqué le Seigneur et l'esprit de sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré, cette sagesse, à tous les royaumes. J'ai estimé qu'en comparaison d'elle, les richesses n'étaient rien. Et le texte continue ainsi. Mais revenons à l'introduction de la somme contre les gentils et à la citation du livre des Proverbes qui a servi à saint Thomas de point de départ. Après avoir dit « Ma bouche méditera la vérité », le texte ajoute « Et mes lèvres détesteront l'impie ». Pourquoi ? Eh bien, saint Thomas signale à ce propos que dans un même sujet, les contraires s'excluent mutuellement, mais aussi s'expliquent l'un par l'autre, et que par conséquent, s'attacher à l'un des contraires conduit à rejeter l'autre. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, le médecin ne peut pas procurer la santé sans combattre la maladie. Ce n'est pas possible. Et de même, on ne peut s'attacher à la vérité sans réfuter l'erreur. Et la réfutation de l'erreur met davantage en lumière la vérité exposée. Alors de là vient que le rôle principal du sage est à la fois de méditer et d'exposer la vérité et de combattre les erreurs qui s'y opposent. Ma bouche méditera la vérité et mes lèvres détesteront l'impie. Et pour montrer comment saint Thomas a parfaitement accompli cette double tâche, prenons, si vous le voulez bien, un exemple choisi parmi une multitude d'autres, il y en aurait beaucoup d'autres. Il s'agit, dans la somme théologique, de l'article 7 de la question 25 de la Secunda Secundae. Cette question 25 traite de l'objet de la charité. Et à l'article 7, saint Thomas se demande si les pécheurs s'aiment eux-mêmes. Est-ce que les pécheurs s'aiment eux-mêmes ? Sa réponse est d'un intérêt si vif que Cachetan, un des grands commentateurs de saint Thomas, dans le commentaire qu'il donne de ce petit article, recommande à son lecteur d'en graver les conclusions au plus intime de son cœur, pour les méditer souvent et même tous les jours. Parce que, comme on va le voir, l'intérêt de cette réponse ne concerne pas seulement notre vie spirituelle personnelle. C'est tout le combat des deux cités évoqué par saint Augustin, vous le savez, c'est tout ce combat qui trouve là son principe. Deux amours ont fait deux cités, le faux amour de soi allant jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité du diable, et le véritable amour de Dieu allant jusqu'au mépris de soi a fait la cité de Dieu. Alors, les pécheurs s'aiment-ils eux-mêmes ? A priori, nous sommes tentés de répondre oui, et de dire même que ce sont eux qui s'aiment le plus, puisque le péché a sa source dans l'amour propre, c'est-à-dire dans un amour de soi excessif. Le pécheur, au fond, s'aime trop. Et pourtant, comme le dit le psaume 10e, c'est d'ailleurs dans l'article de saint Thomas l'argument d'autorité, « Chérir l'iniquité, c'est se haïr soi-même ». Alors saint Thomas explique « S'aimer soi-même, dit-il dans sa réponse, est en effet en un certain sens quelque chose de commun à tous. Mais, en un autre sens, c'est le propre des bons. Et en un troisième sens, un sens qui cette fois est inapproprié, c'est le propre des méchants. Ce qui est commun à tous, c'est que tout homme aime ce qu'il regarde comme son être propre. » C'est ainsi que tous, bons et mauvais, s'aiment eux-mêmes en ce qu'ils veulent leur propre conservation. Nous souhaitons tous rester vivants, nous garder vivants. Mais, en un autre sens, l'homme est dit être ce qui en lui est le plus important, l'élément principal. Or, sur ce point, tous ne sont pas d'accord, justement. Car ce qui est principal dans l'homme, ce qui le définit, c'est sa nature rationnelle, son âme. Et ce qui est secondaire, c'est sa nature sensible, corporelle, que saint Paul qualifie dans la deuxième épître aux Corinthiens d'homme extérieur, par opposition à l'homme intérieur. Et effectivement, l'homme est divisé contre lui-même. en lui, en nous tous, l'homme extérieur dont les aspirations vont aux réalités sensibles, aux réalités délectables, est en lutte avec l'homme intérieur dont les aspirations vont aux réalités spirituelles, divines. Et ces deux hommes se disputent la place dans l'unique champ du moi et cherchent à s'évincer l'un l'autre. D'où la réponse de saint Thomas. Écoutez-la bien, elle fournit le principe qui permet d'expliquer non seulement les déchéances individuelles des hommes pécheurs, mais aussi le drame des civilisations apostates. Voici ce que dit saint Thomas. Les hommes bons savent qu'en eux, le plus important est la nature rationnelle, c'est-à-dire l'homme intérieur. Et c'est ainsi qu'ils s'estiment pour ce qu'ils sont véritablement. Mais les hommes dévoyés croient qu'en eux, le plus important est la nature sensible ou homme extérieur. Et c'est pourquoi ils ne se connaissent ni ne s'aiment véritablement. Et voici les mots importants. Ils s'aiment selon ce qu'ils prennent pour eux-mêmes, c'est-à-dire selon ce qu'ils ne sont pas. En fait, les pécheurs ne s'aiment pas vraiment parce qu'ils ne s'aiment que selon l'homme extérieur, c'est-à-dire selon ce qu'ils croient être et ne sont pas, en fait. Ils sont dans l'illusion. Vous voyez que cette fine analyse permet d'expliquer non seulement le drame personnel des pécheurs, mais aussi la crise de la civilisation moderne, la civilisation qu'on appelle des droits de l'homme. Car l'homme des droits de l'homme, cet homme qu'aime le monde moderne, c'est précisément l'homme extérieur, un homme dénaturé, un homme qui n'aime que les biens extérieurs. Et le culte de l'homme, ce fameux culte de l'homme dont on nous rebat les oreilles, c'est le culte de cet homme extérieur, cet homme que l'homme moderne se donne en idéal et qu'il aime jusqu'au mépris de Dieu, comme dit saint Augustin, édifiant par là la cité de Babylone. Mais cet homme, au fond, n'est qu'une contrefaçon de la créature rationnelle que Dieu a créée à son image. Et c'est ce qui faisait dire au penseur brésilien Gustave Corsao, dans son maître livre « Le siècle de l'enfer », que la civilisation moderne est non seulement une civilisation anthropocentrique, c'est-à-dire centrée sur l'homme, mais même une civilisation anthropo-excentrique, comme il disait, adoratrice de l'homme extérieur, de l'homme décentré, dissocié de son âme. Et derrière ce jeu de mots, il y a une vérité profonde, une vérité dont le principe se trouve déjà chez saint Paul, chez saint Augustin et a fortiori chez saint Thomas. Au fond, la vaine tentative issue du faux humanisme de la Renaissance, qui consiste à vouloir rendre l'homme autonome, à le mettre au centre de tout, à la place de Dieu, repose, vous le voyez, sur une fausse conception de l'homme, sur l'idée fausse que l'homme pécheur se fait de lui-même, et sur laquelle toute la civilisation moderne s'est entièrement construite. Alors de tout cela, on peut tirer quelques conséquences. D'abord, sur le véritable amour envers soi-même. À cause du péché, le moi extérieur, qui est toujours disposé aux cupidités sensibles, s'oppose à l'amour de charité qui nous fait haïr le mal et aimer le bien. Alors il faut rétablir l'ordre et s'aimer soi-même de charité, c'est-à-dire selon l'homme intérieur et non pas selon l'homme extérieur. Et c'est ce que saint Thomas détaille de cette manière. Il dit qu'il faut désirer pour soi le vrai bien, c'est-à-dire le bien spirituel, le bien surnaturel. Il faut travailler à se procurer ce bien, il faut en faire ses délices, et il faut faire la guerre, une guerre sans merci, à l'homme extérieur, au vieil homme, comme dit encore saint Paul, qui milite contre notre homme intérieur. Vous voyez, Cachetan avait bien raison de nous conseiller de graver cette page au plus profond de nos cœurs et de la méditer souvent, parce qu'elle nous encourage à avoir une vraie vie intérieure, une vie fondée sur la charité, éloigné de toutes les agitations et de la tyrannie de l'homme extérieur, car l'homme extérieur est tyrannique. Et puis, autre conséquence, Cette page nous offre une clé précieuse pour comprendre le monde qui nous entoure. Nous percevons mieux pourquoi il existe une ligne de partage qui sépare le monde en deux camps et demi. Il y a d'un côté ceux qui exaltent l'homme extérieur, et on voit aujourd'hui jusqu'où ça nous mène, avec le transhumanisme, ou la théorie du genre, ou toutes ces horreurs. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui s'efforcent de vivre selon l'homme intérieur, et qui s'attachent aux biens spirituels qui conduisent à Dieu. Les premiers veulent construire un monde nouveau, dans lequel Dieu est absent, totalement absent, dans lequel l'homme est le centre, et cet homme dégénéré, dénaturé, comme on a dit. Et puis les seconds travaillent à l'avènement du règne de Dieu et de notre Seigneur en eux et dans le monde. C'est le combat des deux cités, qui sont nées de deux amours opposés. Alors, tout cela nous montre combien saint Thomas, en même temps qu'il médite la vérité, et avec quelle finesse, quelle profondeur, rejette l'erreur qui s'y oppose. Et dans toute son œuvre, c'est quasi systématique. Alors, bien sûr, dans la mesure où il vivait au XIIIe siècle, il n'a pas pu connaître ni pointer toutes les erreurs qui sont apparues depuis. Il ne parle évidemment pas des droits de l'homme, ni de la franc-maçonnerie d'ailleurs, ni du mondialisme, parce que ce sont des manifestations modernes de cette déviance, mais cette déviance profonde, saint Thomas la dénonce. Dans sa sagesse, il remonte aux principes, aux causes les plus hautes, et dans ces principes, il discerne et condamne les germes de toutes ces erreurs qui, à son époque, étaient encore à venir. Et c'est pour cela que la lecture de saint Thomas est toujours d'une grande actualité et d'un grand profit. Elle est même beaucoup plus fructueuse que bien des analyses critiques de tout ce foisonnement d'erreurs actuelles. Parce que ces analyses sont souvent purement descriptives, elles ne vont pas au fond des choses. Quand il aborde une question, saint Thomas va toujours au formel, comme on dit, à l'essentiel. Et c'est pour cette raison que son propos, si condensé soit-il, parce que saint Thomas est très condensé, son propos nourrit vraiment l'intelligence et nous fait comprendre le pourquoi de toutes ces erreurs. Et en même temps, le principe de leur solution. Alors, c'est cela qui fait que saint Thomas est vraiment un maître. Il faut même dire le maître par excellence. Et vous le savez, c'est ce que ont maintes fois déclaré les papes qui ont imposé sa doctrine à toute l'Église et qui n'ont jamais cessé d'encourager l'étude de ses œuvres. Dieu lui a confié une mission unique, tout à fait unique, dans l'histoire. Et pour qu'il puisse mener cette mission à bien, Dieu lui a donné des facultés et une sagesse incomparables. Il l'a fait héritier de tout ce que l'homme avait produit de meilleur avant lui, tant dans le domaine de la philosophie que dans le domaine de la foi et de la théologie. Et si à tout cela, on ajoute qu'il fut un très grand saint, riche de toutes les vertus et un modèle de vie de prière, alors nous comprenons sans peine l'intérêt exceptionnel qu'il y a à se faire son disciple. Alors c'est la grâce qu'il faut demander, même si peut-être tous nous ne pouvons pas lire constamment et jusqu'au bout toutes les œuvres de saint Thomas, au moins nous inspirer de sa doctrine, de le prier, et puis prions la Sainte Vierge, elle qu'on appelle Sedes Sapientiae, le siège de la sagesse, qu'elle nous aide, qu'elle nous encourage chaque jour à mieux comprendre, mieux pratiquer toutes ces grandes vérités que saint Thomas a si bien développées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.